Alors, bon matin à chacun et que le Seigneur nous bénisse dans l'étude de sa parole. Laissez-moi vous dire quelque chose avant d'aborder le sujet. Les anciens m'ont donné ce sujet-là suite à cette petite brochure qu'on a faite, souvenez-vous, notre identité. En regardant dans mes notes des années passées, après plus de 20 ans à l'Assemblée comme ouvrier plein temps, j'ai déjà prêché là-dessus, enseigné là-dessus de différentes manières. Et je me suis dit à moi-même, j'aimerais avoir un regard frais sur cette grande question, les anciens sous l'autorité de Dieu. Et c'est quelque chose qui, on ne parle pas souvent. C'est une étude qui vaut la peine d'être faite parce que ça nous fait comprendre la pensée de Dieu sur la direction de l'Église locale. Au travers des années, j'ai ramassé un paquet d'anecdotes. Je pourrais prendre 10 minutes à vous en parler, on rirait bien. Je me souviens, il y a un monsieur qui arrive ici, qui est encore ici, il est diacre aujourd'hui. Il dit, la première fois que je suis arrivé à l'Assemblée du Cap, il dit, je cherchais le bureau du pasteur. Ça, c'est avant qu'on ait les photos. Puis il dit, je ne le trouvais pas. Puis ça lui a pris plusieurs semaines pour savoir c'est qui était le pasteur. Pour découvrir que l'Assemblée du Cap était riche, on avait plusieurs bergers qui prenaient soin des brebis. Il y a d'autres personnes qui arrivent, et lorsqu'on dit, « Ah, je fais partie de l'Assemblée chrétienne, des Assemblées des frères », et la première question qu'ils me posent, « C'est-tu toi le pasteur? » Non, je suis l'ouvrier. Ah oui, OK, t'es l'ouvrier. Oui, je suis plein temps. Ah oui, t'es plein temps. Mais comme ça, tu fais la job de pasteur. Et là, les gens ne savent plus comment m'appeler. Je suis un ancien, je suis un pasteur. Je suis un ouvrier. Tu arrives à l'hôpital. Oui, vouloir telle personne? Oui, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Êtes-vous de la famille? Non, je suis un ouvrier de l'Assemblée chrétienne du Cadre de la Madeleine. Un ancien. Quoi? Là, OK, je suis pasteur. Il est arrivé tellement d'affaires au cours des années, là. Ça n'est vraiment, vraiment comique. Tu sors du monde francophone au Québec, t'arrives à Toronto. J'ai été à Toronto dernièrement. Puis, c'est de même un peu partout. Dans les assemblées, on ne sait pas comment appeler les dirigeants d'église locale. On les appelle anciens, on les appelle ouvriers, on les appelle pasteurs, puis on n'ose pas trop parce que ça nous identifie d'un certain leadership qu'on ne voit pas, nous. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aborder cette question de les anciens sous l'autorité de Dieu. Puis j'ai souligné en sous-titre l'idée magistrale de Dieu pour son corps, pour vous dire en partant que ce n'est pas l'idée de 3-4 hommes de l'Assemblée du Cap qui ont décidé qu'eux vont prendre l'autorité, puis ils vont se dire anciens, puis là, ils vont tout décider, puis ils vont fonctionner comme ça. La direction de l'Église locale, c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est enseigné, c'est quelque chose qu'on voit dans les premières églises locales, à partir du premier siècle. Et ça continue au travers de l'histoire de l'Église où que Dieu a choisi des hommes pour diriger son peuple. Aujourd'hui, il y a tellement de livres, et j'en ai lu plusieurs aussi sur le leadership, sur les pasteurs de l'Église, les bergers de l'Église, les anciens de l'Église. J'en ai même lu un qui s'intitulait « Ces anciens, ces inconnus ». Et laissez-moi vous dire quelque chose, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur le sujet qu'on va aborder ce matin. À cause de la grandeur de cette étude-là, j'ai dû la diviser en 2 semaines, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va patiner tout à l'heure. La semaine prochaine, on va regarder le mandat des anciens. Et dans la 3e semaine, après Jacques, je vais revenir avec la vision. J'aimerais ce matin qu'on réalise ensemble que Il y a un principe dans la parole de Dieu qu'on voit dans Romains 13:1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et dans le contexte, on sait très bien qu'on parle de l'autorité que Dieu a déléguée aux magistrats. Dieu a délégué l'autorité au travers de trois sphères. Dieu a toute autorité. Il y a l'autorité parentale. Il va avoir l'autorité dans la société sociale. On sait que la Bible nous exhorte à être quoi? Soumis à toute autorité. Elle ne nous demande pas de dire, il faut que l'autorité soit à mon goût, à moi. Elle nous demande d'être soumis à l'autorité. Et Dieu a aussi délégué de l'autorité à l'Église, afin que son Église ait une autorité spirituelle. Vous savez, un matin, s'il n'y aurait pas eu de règles ou de règlements par rapport à notre conduite, on serait probablement arrivé ici un matin avec des chars d'assaut. Moi, je suis très heureux qu'il y ait un code où ça nous dit quand arrêter, qu'il y ait des lumières rouges, des lumières jaunes, des lumières vertes. Ça fait mon bonheur et je me sens sûreté lorsque je vais sortir dehors dans mon auto, aller à une place. Je vais me soumettre à l'autorité. Et si je ne me soumets pas à l'autorité, il y a un monsieur qui existe, qui a un petit calepin avec un crayon. Et ce monsieur-là, il est délégué par les autorités de la ville à m'écrire un petit billet pour m'avertir et me protéger de mon manque de sagesse dans ma conduite. Et lorsque je lui ai dit merci et j'ai pris le billet, je l'ai payé tout de suite parce que j'ai pris ça comme une leçon de conduite. Et ce n'est pas la faute du policier, c'est ma faute, parce que je n'étais pas soumis à l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué l'autorité. L'apôtre Paul, est-ce que vous voyez l'apôtre Paul avec des pancartes en disant « Abattez l'esclavage! Abattez l'esclavage! » L'esclavage, c'est terrible. Est-ce que vous voyez l'apôtre Paul en avant des temples avec des pancartes? « Allez pas là! » Faites pas ça! Ce qu'on voit dans les premiers siècles, dans le premier siècle, on voit des hommes et des femmes de Dieu qui proclament la bonne nouvelle au milieu des ténèbres. Et ils sont sous l'autorité de Dieu. Il y a plusieurs formes d'autorité. Moi, j'appelle l'autorité pyramidale. L'autorité est comme, si vous voulez, une pyramide, où ce qu'on a les laïcs en bas et le clergé un peu plus haut. Et c'est très séparé, c'est très structuré, très séparé. C'est un top-down qu'on appelle en anglais. En haut, ils dirigent, en bas, ils suivent. Et il y a une autre sorte de leadership qu'on peut appeler, j'appelle le P, moi j'appelle ça la personne qui représente le gourou. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'une personne qui est la tête finale, qui est celui ou celle qui va diriger la secte ou l'école de pensée ou la religion. C'est la personne que lorsqu'elle va même prendre la Bible et lire la Bible, on va préférer écouter le gourou qu'écouter ce que la Bible dit. Parce que lorsque les deux se contredisent, ils vont dire c'est le dernier inspiré qu'on doit écouter. C'est notre gourou. C'est celui à qui on téléphone pour savoir si on doit s'habiller de telle manière ou telle manière. C'est la personne à qui on téléphone pour savoir si on doit écouter telle émission de télévision ou pas. C'est telle personne qu'on va téléphoner pour savoir si on doit mettre nos enfants dehors ou pas. C'est telle personne qu'on va téléphoner pour savoir si on doit manger, ce qu'on doit manger. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des sectes, il y a des gens qui se disent de Dieu, qui allaient même fouiller dans votre frigidaire pour savoir ce que vous mangez. Et système des gourous. Il y a une autre forme, si vous voulez, de leadership qu'on peut voir. C'est la forme de leadership où ce qu'on a les laïcs en bas, en bas, en bas, mais on a le clergé qui est boss, mais on laisse passer des laïcs dans le crack pour nous aider à faire la job. Et là, on essaie de faire des églises. Et nous, nous allons nous préoccuper ce matin de voir ce que Dieu en dit. Je vous propose la cellule vivante. Et même là, dans cette cellule vivante, où nous sommes tous différents, mais des On a des dons différents, des appels différents, mais nous sommes tous sur le même plancher. On est tous des frères et des sœurs. Mais même là, c'est dangereux, parce qu'au travers de ça, il peut arriver un pégourou aussi. Quelqu'un qui a une forte personnalité, qui va dominer les autres. Il va en avoir peut-être deux, trois, quatre, il peut en avoir en masse de ça. Alors, il faut vraiment avoir la perception biblique de qu'est-ce qu'est un leadership. Et la métaphore que j'aimerais vous proposer, c'est les oies. Et là, j'avais un son, mais ça ne fonctionne pas encore, mais un jour, on va avoir le son avec ça. Là, j'ose pas faire le son d'un oie. Ah! Hein? Ah! Ah! C'est ça, à peu près? Une corneille! C'est pour ça que j'ai mis le fichier avec le son, parce que j'étais sûr que j'étais prêt à l'imiter. Savez-vous pourquoi qu'il circule en V? J'ai vérifié ça, puis ils nous disent, dépendant des experts, il y en a qui disent 70%, d'autres disent 71%, ça se tient encore. Mais savez-vous que lorsqu'ils vont s'en aller comme cela en V, ils vont 60 à 71% plus loin que si il essaierait de battre des ailes tout seul. Et là, il y a un phénomène extraordinaire qui se fait. Il y en a un qui prend le devant. Puis là, il est en train, hein? Il s'en va face contre vent. Et toutes les autres sont toutes en lignée derrière. Vous avez vu ça? C'est beau à voir. Et là, on entend quoi? Lâche pas! Continue! Lâche pas! Continue! Puis là, il l'encourage. On s'en va dans la bonne direction! « Lâche pas! » Et là, lorsque celui qui est en avant est fatigué, il s'en va, un autre prend sa place. Et celui qui est fatigué, la langue à terre, « Lâche pas! Lâche pas! » Et là, ça vole. Et là, il y en a un qui tombe malade dans la gang. Savez-vous ce qui arrive? Il y en a deux qui descendent avec lui à terre. Jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il prenne des forces pour regrouper en vie. À quelque part, cette belle métaphore nous montre, en fin de compte, l'idée magistrale de Dieu, de l'autorité spirituelle dans l'Église locale. Où ce que c'est des hommes que Dieu a choisis, qui a suscité parmi le peuple de Dieu, pour aller de l'avant. Certains ont des dons, certains ont des dons différents, certains ont une préférence sur telle orientation, d'autres sur telle orientation, mais l'idée magistrale, c'est que chacun est prêt à prendre la place en avant, et lorsqu'ils sont fatigués, ils continuent d'avancer en avant, ils sont plusieurs, ils se relaient, ils se donnent des forces, ils s'encouragent, et lorsqu'il arrive un malheur, ils sont même prêts à assister celui ou celui qui est en danger. L'introduction ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque on entend pour la première fois le mot « ecclésia » dans la Bible, dans Matthieu 16, 16 et 18, on voit ici le fondement et l'autorité de Jésus qui confirme. Lorsque Simon-Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », dans le verset 18, Jésus va dire « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » J'aimerais vous faire remarquer, lorsque Pierre a confessé que Christ était le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit, « Je vais bâtir mon Église sur cette déclaration de foi. » Ce n'est pas bâtir mon Église sur des hommes ou la performance des hommes, mais sur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va faire en sorte que son Église va persévérer au travers des siècles. Maintenant, rapidement, je vais vous faire l'historique du développement du leadership de l'Église locale dans les Actes, dans l'histoire biblique. Et vous allez voir d'une manière progressive la manière que l'autorité spirituelle est déléguée aux anciens, la manière que ça s'est produit, le fait d'avoir des anciens dans une église en train de diriger le peuple de Dieu, de conduire le peuple de Dieu, d'enseigner le peuple de Dieu, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé sur une période de temps. Et je l'ai divisé en temps. En 45 de notre ère, la première chose qu'on entend parler dans les cris les plus, c'est les anciens à Juda de Judée, c'est-à-dire les anciens Judées, qui reçoivent un don à cause de la famine, dans Actes 11, 30. C'est là qu'on voit que les anciens sont liés aux apôtres, sont liés aux dons que les chrétiens envoient à cause de la famine à Jérusalem. C'est là que ça commence. C'est intéressant de voir ça. Ensuite, en 45-46, on voit que les anciens prient et le ministère de guérison dans Jacques 5, 13 et 16. Et là, on a des ordres, on a de l'information. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, le oindre d'huile, on priera pour le malade. Et la prière de la foi relèvera le malade. Deuxième indication des anciens dans le temps. Ensuite, en 47, on voit Paul et Barnabas qui désignent des anciens dans Actes 14, 21-23. Assez intéressant. Des missionnaires qui arrivent à une place, qui évangélisent. Ils désignent des anciens. On va en parler un peu plus loin de cela. En 48-49, on voit pour la première fois le soutien financier pour ceux qui enseignent, pour ceux qui vont se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ensuite, avec le temps, en 49, c'est le concile de Jérusalem, dans Actes 15, 1 à 32. Et là, on voit dans ce concile les anciens qui sont réunis avec les apôtres et les missionnaires qui sont là, puis il y a une grande discussion. En 49-50, il y a la lettre de la part des apôtres et des anciens. On voit ici que les anciens et les apôtres sont en train de s'identifier ensemble comme quoi? Leaders de l'Église, l'autorité spirituelle, au point d'écrire une lettre et de la faire parvenir partout afin que les non-juifs aient accès à la grâce de Dieu sans la persécution des juifs qui exigeaient des faire circoncire. Regardez bien. En 51, qu'est-ce qu'on découvre sur les anciens? Honorez ceux qui peinent et qui vous dirigent. Dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire à cette église, honorez ceux qui peinent et qui vous dirigent. On parle des anciens. Ici, 56, on voit le soutien financier à l'ouvrier fidèle dans 1 Corinthiens 9-7. On voit aussi que celui qui est fidèle, qui œuvre pour Dieu, est soutenu. Celui qui vit, celui qui annonce l'Évangile vit par l'Évangile. On voit en 58 l'instruction de Paul à aux anciens d'Éphèse. On va voir ça plus tard, un peu plus loin. On voit ici, en 58, que Paul va instruire les anciens d'Éphèse, va leur parler, puis va leur donner des instructions en ce qui concerne discerner, établir des nouveaux anciens. On voit en 58 la rencontre de Paul, Jacques et les anciens de Jérusalem. Ils viennent ensemble dans Actes 21, 17 à 26. On voit encore là les anciens, les apôtres ensemble, c'est les dirigeants de l'Église locale. On voit ici en 61, Paul salue les évêques et les diacres. Un mot qu'on ne voit pas souvent, n'est-ce pas? Évêques. Alors, on voit l'évêque, c'est ceux qui surveillent, c'est le mot surveillant. On va le voir plus loin, un peu plus tard. Là, je vais vous donner une perspective historique des événements, tranquillement. Regardez bien, en 63, on a là les qualifications des anciens et des diacres. 20 pour les anciens, 19 pour les diacres. Et là, c'est expliqué, en 63, 30 ans après, on est en train de réaliser qu'il y a une certaine manière de vivre pour les anciens, une manière de faire, les modèles du troupeau, etc., en 63. 63, les anciens, c'est intéressant, les anciens ici sont identifiés, ils imposent les mains à Timothée, ils donnent la main d'association à Timothée par rapport à ses dons pour le Seigneur. Alors, on voit que les dirigeants de l'Église locale, c'est des dirigeants qui discernent les dons chez les autres et va identifier ces gens-là comme étant des hommes ou des femmes de Dieu. On voit ça en 63. En 63, on voit le soutien financier pour certains anciens. Et en passant, c'est le verset clé de M. Strauch sur le livre « Les anciens » qui démontre que soutenir quelqu'un dans le travail d'ancien est biblique. Le double honneur. 63, protection et discipline des anciens en 63. Et là, on commence à réaliser, attention, s'il y a des accusations envers les anciens, que ce soit deux témoins, deux ou trois témoins, on peut prendre des accusations qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas justifiables, qui sont des oui-dire d'un ou de l'autre. Ça prend deux témoins pour protéger les anciens. Puis il y a aussi la discipline des anciens. Ceux qui pêchent, on doit les reprendre, comment? Publiquement. En Sourcendès 3 encore, les instructions pour les anciens dans 1 Pierre 5, 1 et 4, qu'on va voir plus en détail un peu plus tard. On voit que Pierre va nous expliquer, lui, ancien lui-même, va nous expliquer la direction de l'Église locale et l'attitude des anciens. 65, l'instruction afin d'établir des anciens dans Tite 1, 5 et 16. Et catéchisme ici veut dire, lorsqu'il dit dans Tite, « Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens. » Et le mot « catéchisme » veut dire « montrer la job ». Les entraîner, être une sorte de mentor pour eux autres. Le montrer le travail en 65. Et lorsqu'on continue l'histoire de l'autorité spirituelle que Dieu a déléguée aux anciens, en 64-68, on nous exhorte dans Hébreux 13, 7, 17 et 24 de les imiter, d'être soumis et de les saluer à part des autres saints. Ils sont mis à part. Ils sont soulignés de manière spéciale. Et c'est cela qu'il faut voir. En 66-67, on voit dans Philippiens 1, 20, 26 et 2 Timothée 4, 6 à 18, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire vers 66-67? C'est qu'ils doivent servir avec joie. La joie de servir Dieu parmi le peuple de Dieu. Et cela nous amène aux quatre voyages de l'apôtre Paul. Lorsqu'on est en train de regarder ensemble l'histoire, la formation de l'autorité spirituelle des anciens dans l'histoire, dans la parole de Dieu, dans les actes, on doit réaliser que Dieu a institué un groupe d'hommes. Année après année, il a mis des instructions, instruction après instruction. Il a mis des avertissements, avertissement après avertissement. Et là, on est en train de ramasser un corps de doctrine. On est en train de ramasser un corps d'instruction afin de savoir c'est quoi l'autorité spirituelle dans une église locale. À quoi ça ressemble? C'est-tu une étiquette sur un bureau qui dit « pasteur un tel »? Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Et laissez-moi vous dire quelque chose, la parole nous montre avec les voyages de Paul et ce qu'on vient de voir, que l'autorité spirituelle grandit, se fortifie, s'affirme et agit. Dans le premier voyage missionnaire de Paul en 47, regardez ce qui est arrivé. Acte 14, 23, on l'a lu tout à l'heure. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Kéro tenero. Kéro veut dire main, tonero veut dire tendre. Alors, l'astination, c'est comment? Ils ont-tu fait ça comme ça? Ou ils ont fait ça comme ça? Et là, tous les experts s'astinent à la hauteur de la main. Il y en a qui abaissent, puis il y en a qui hautent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces hommes de Dieu ont reconnu les autres hommes de Dieu. Et lorsqu'ils ont regardé, écouté, observé, ils ont dit, « Hey, ce gars-là, ça ferait un hyper ancien, c'est évident. » Il a les qualités qu'il faut. Il aime Dieu, il aime le peuple de Dieu, il aime la parole de Dieu, il réalise les conséquences de la gravité du péché. Là, il l'examine, puis là, il pointe du doigt. Kérotenaros. Et à moins que les frères qui désignaient des anciens sont regardés, puis ont dit, « OK, je prends pour lui. » Voyez-vous, la hauteur de la main, on peut s'astiner longtemps. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Arrangez-vous pour avoir la bonne personne à la bonne place. C'est le premier voyage. C'est au début, en 47. Ensuite, en 49, dans le deuxième voyage missionnaire, on voit quelque chose tout de suite au début. Trois noms qui viennent. Trois noms. Silas, Timothée, puis Jean-Marc. Tout de suite en partant. La relève. Ils discernent tout de suite. Ils n'attendent pas qu'ils soient décédés pour passer à d'autres. Ils voient tout de suite la relève. Ces jeunes hommes, remplis de l'Esprit de Dieu, zélés pour la parole de Dieu, Ces jeunes hommes qui ont besoin de mentorat, qui ont besoin de formation, ils les voient au début de l'établissement de l'Église naissante. En 49, l'apôtre Pierre va dire ceci, lorsqu'ils sont dans Actes 15, la grande astination, les pharisiens qui ont cru se lèvent, il faut que les chrétiens se fassent circoncire, on voit les plus considérés de Dieu là, il y a Jacques, il y a Jean, il y a Paul, il y a les anciens qui sont dans le leadership, qui sont dans la direction, et au travers de cette grande discussion, Pierre se leva. Êtes-vous surpris de voir Pierre se lever? C'est ce qu'on appelle, il y a un terme en anglais qui s'appelle « the first among the equals », le dirigeant primaire parmi les égaux. Et Pierre a toujours eu une influence, une autorité spirituelle, à cause de qui il est, à cause de sa relation avec Dieu, à cause de ses dons. On voit que Pierre se lève debout, comme qu'il s'est levé debout dans la chaloupe, comme qu'il a été le premier à dire « Jamais je vais te renier, Seigneur! » Premier, « Hey, les gars, écoute, vous poussez pas mal fort. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La circoncision, c'est l'ancienne alliance, voyons donc. » Et là, Pierre se lève. Et c'est intéressant, la lettre. Regardez l'autorité de la lettre. Oublions pas, là, il faut que cette lettre ait de l'autorité pour affecter et pour influencer les communautés chrétiennes du premier siècle. Alors, il a paru bon. Il a paru bon aux apôtres et aux anciens. Arrêtons-le. On va arrêter là. Les apôtres et les anciens. Qui sont ces anciens inconnus? Les dirigeants de l'Église locale, des hommes qui ont une autorité spirituelle, des hommes qui ont une influence spirituelle dans la vie des autres. Et en plus, toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche, Paul, Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas. Homme, quoi? Leader. Considéré. Homme loyal. Homme fidèle. Homme considéré parmi le peuple de Dieu. C'est évident que c'est eux autres qui devaient y aller. Toute l'assemblée le savait. Des fois, quelqu'un dit, « Mais comment est-ce qu'on fait pour discerner les nouveaux anciens? » Comment est-ce qu'on fait? C'est pas facile. Mais savez-vous de quoi? Vous allez être les uns les autres, hein, tout le monde ici, là, l'Église. Vous allez être dans les premiers à discerner qui que le Saint-Esprit a suscité parmi vous. Vous allez dire, ouais, ça c'est du bon bois. Ça ferait un ancien, ça. Ça ferait un bon dirigeant. Il est sage. Il est pondéré. Il n'est pas extrême. Il réfléchit avant de parler. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais... comprenez l'idée des hommes considérés. Regardez les hommes considérés alentour de vous. Vous, l'Église. Dieu suscite des hommes. En 53, troisième voyage. Et là, c'est intéressant parce qu'on a le texte clé. Paul prend congé des anciens d'Éphèse. Et c'est intéressant, ce texte est merveilleux. Actes 20, 17 et 28. Or, il envoya de Milet à Éphèse, et appela auprès de lui les anciens. Presbytéos, qui veut dire les vieillards, les plus vieux, les plus expérimentés de l'assemblée. Paul les fait venir. Il veut leur parler. Il veut leur dire ceci. Prenez donc garde à vous-même. Première chose qu'il dit à ses anciens. Prends garde à toi-même. Prends garde à ton témoignage. Prends garde à la manière que tu parles, la manière que tu t'habilles, la manière que tu réagis ou agis, tes relations ou ce que tu vas. Prends garde à toi-même parce que toi, l'ancien, t'es regardé et examiné. Les leaders d'une assemblée, d'une église locale, vivent dans une maison de verre. Et la sous-assemblée qui existe toujours, ça lui fait de la nourriture à cacasser. Il va dire, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. épiscopos, qui veut dire bishop en anglais, qui veut dire évêque en français. On est les surveillants, les évêques, les anciens sont surveillants. Ils surveillent, ils regardent, ils observent, ils écoutent. L'autre fois, des fois, on regarde le tableau en arrière. Le monde pense qu'il n'y a pas de direction à l'Assemblée au Cap. Le monde arrive avec toutes sortes d'annonces bizarres en arrière, puis ils pensent qu'on va emmener toute l'Assemblée à quatre parts parce qu'ils ont mis une annonce en arrière. Elle est invisible, bien des fois, l'autorité de l'Église locale. Parce qu'elle n'est pas une cellule vivante avec des hommes qui dirigent. Et si on n'avait pas mis les photos avec qui sont anciens puis diacres, tout le monde se posait des questions. Je ne me rappelle plus combien de fois les gens viennent me voir et disent « C'est qui est diacre? C'est qui est ancien? C'est qui fait quoi? » Les gens savent. C'est pour cela qu'on écrit ce petit dépliant. Qui nous sommes? Les gens arrivent dans un modèle d'église qu'eux autres, c'est très clair. C'est le pasteur. Ça finit là, là. Ils arrivent ici, ils sont perdus ben net. Ils pensent qu'il n'y a pas de direction. Ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, il y a une liberté à table du Seigneur. Ils pensent qu'ils peuvent afficher n'importe quoi parce que personne ne surveille ça. Ils pensent de faire n'importe quoi, il n'y a pas de direction, ce n'est pas grave. Il y en a une direction. La direction est là, mais elle n'opère pas de la même manière que la direction pyramidale. On est là pour surveiller. Et c'est le Saint-Esprit qui vous a établi. Avez-vous remarqué? Le Saint-Esprit vous a rendu visible dans votre position. Ce n'est pas une gang d'hommes qui décide que c'est un homme. C'est le Saint-Esprit qui rend évident pour toute l'Église, et premièrement les anciens en place, qui est un candidat propice pour être ancien. Pourquoi tout ça? Poémie. On a le mot pasteur, là. Paître. Paître, pour paître l'Assemblée de Dieu. À laquelle il s'est acquis par son sang, par le sang de son propre fils. Voyez-vous, les trois termes sont interchangeables. L'ancien, c'est un titre, surveillant nous démontre si ou qu'est-ce qu'il fait, il surveille. Et poémie, berger, pasteur, nous décrit son activité. Alors, les trois termes sont interchangeables, mais ce qui est important de réaliser, c'est le titre qui est donné au leadership de l'Église locale, c'est les anciens. Il y a certaines structures de leadership où ce que les anciens, c'est les diacres. Puis là, il y a un staff en haut, payé plein temps. Puis il y a toutes sortes de modèles. Je ne veux pas parler du temps avec ça, le temps il coule déjà assez vite. Quatrième voyage missionnaire. Qu'est-ce qu'on voit? L'arrestation à Jérusalem. Alors, on voit que Paul est arrêté, il séjourne à Césarée, il va voyager à Rome, captif, première captivité, deuxième captivité. Et là, on arrive, si vous voulez, à l'apogée de la vie de Paul, puis là, il va pondre un autre texte. On l'appelle le testament de l'apôtre Paul. Puis dans ce testament, il va nous laisser le texte qui nous parle de long en large de la direction de l'Église locale. Dieu dit ceci, c'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants, ou docteurs, enseignants. Poémie, pasteur, berger, et enseignants, les deux sont liés ensemble. Ceux qui prennent soin et nourrissent le troupeau de Dieu, métaphore d'un berger avec des brebis. Dans ce texte, on voit les trois interchangeables encore. Je vous exhorte, quoi? Les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée, dit l'apôtre Pierre. Pierre dit qu'il est aussi ancien, puis qu'il exhorte les anciens. Avez-vous remarqué, il ne dit pas « j'exhorte les pasteurs ». Avez-vous trouvé les qualifications des pasteurs, mais vous trouvez les qualifications des anciens? Avez-vous réalisé que celui qui est Pierre, celui qui doit prendre soin du troupeau, est aussi ancien, puis il parle aux anciens qui sont dans les églises locales? Regardez, « poémie ». Hein? Encore le même terme, berger, paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. En comment? En étant des évêques. Quoi? Les surveillants. Parce que le mot évêque ne veut rien dire. C'est une translittération du grec au français. Ça veut dire surveiller. Et là, on donne l'attitude, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré. Et voilà tout l'arrière-plan de ces trois termes. C'est intéressant ici, non comme en dominant sur eux, sur des héritages, on va leur dire, ce n'est pas votre propriété. Ces brebis que le Seigneur vous a confiées comme berger, comme directeur, comme ceux qui dirigent l'Église, c'est pas vous autres, ça ne vous appartient pas. C'est ceux qui sont issus en partage. C'est ceux qui vous ont été confiés. Et là, mais en tant que modèle du troupeau. Voilà l'attitude, voilà la manière. Et quand le souverain pasteur, archipoémen, qui veut dire le souverain pasteur, ça veut dire celui qui est Jésus-Christ, sera manifesté, apparaîtra, on le voit, lorsqu'on va le voir, vous recevrez la couronne incorruptible de la gloire. Conclusion. Cette observation concernant l'autorité spirituelle des anciens, selon Hébreux 13, 17. Regardez bien, rapidement. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Summer. Voilà, summer, ça, c'est trop littéral. C'est paraphrasé. On va prendre Darby, c'est encore mieux. Darby, il est bien fidèle aux Grecs. Bon, on va prendre Darby. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie et non en gémissant, car cela ne serait pas profitable. Qu'on le lise dans n'importe quelle traduction, ça dit toujours la même affaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Première chose, l'autorité des anciens est clairement établie. Obéissez, soyez soumises. Et le mot qu'on a là nous montre tout simplement cette idée que les anciens sont là pour apaiser, sont là pour convaincre, sont là, c'est des gens à qui on peut se confier et en qui on peut faire confiance. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Deuxième chose, l'autorité des anciens est déléguée du Seigneur lui-même. C'est marqué, ils devront rendre compte. Et c'est l'affaire la plus épeurante pour un ancien. Qu'un jour, il va être assis, il va être devant le tribunal de Christ, puis il va avoir à rendre compte de ses décisions, il va avoir à rendre compte de son enseignement, il va avoir à rendre compte de la manière qu'il a dirigé l'Église locale pour Dieu. Et ça, on vous dit quelque chose, il n'y a pas un ancien qui n'a pas perdu des nuits de sommeil avec ça. C'est grave, ça. Troisième observation, l'autorité des anciens a un caractère pastoral, car il... Arrêtons de soupçonner le mal. Quand tu arrives avec ta Bible chez quelqu'un, puis le gars te dit, je t'ai écœuré de me faire dire comment vivre, je ne veux rien savoir. On n'est pas là pour dire aux gens comment vivre. On est là pour dire aux gens, frère, sœur, arrête! Ton péché est en train de te détruire! Ton péché détruit ton épouse, détruit tes enfants, détruit tes amis, qui détruit le témoignage du Seigneur et déshonore le Seigneur et tu détruis ta vie spirituelle. On est là pour le supplier de se repentir et revenir à son plan spirituel. Je me souviens une fois, je cognais une porte. Oh, les gros canons! Okay. Mais madame, on n'est pas des canons. On vous aime. On veille. Vous allez recevoir des téléphones bientôt, là. Comment ça va? Ça fait X semaines qu'on ne vous a pas vu à l'Assemblée. C'est pas pour savoir ce que vous mangez, ce que vous pour déjeuner, là. Parce qu'on vous aime, puis on est inquiet de votre santé spirituelle. Parce qu'on en rend compte à Dieu et notre job, c'est de surveiller. Quatrième observation. L'autorité des anciens est de nature spirituelle. Au bien de vos âmes. Ce n'est pas votre compte de banque qui nous intéresse, c'est le bien de votre âme. Ce n'est pas de vous dire quoi manger, quoi habiller qui nous intéresse, c'est le bien de votre âme. Cinquième observation, l'autorité des anciens s'exerce dans le cadre de la collégialité collégiale. Vos conducteurs, protection pour vous, protection pour les anciens. On est ensemble en V. C'est merveilleux, ça. Si je vais fou demain matin, ce ne sera pas long. Je vais avoir un paquet de souliers en arrière de moi qui fasse fort. Vous êtes protégés. Sixième observation, l'autorité des anciens doit pouvoir s'exercer dans la joie. Ça, c'est important. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Ce qui serait de votre part, aucun avantage. La joie, priez pour votre comité d'anciens. Priez pour vos dirigeants qui servent avec joie. Lâchez des « oh, oh » de temps en temps. « Quêtez-vous pas, quêtez-vous pas. » Ils vont passer dans la porte pareille. Ils ne seront pas assez orgueilleux, puis les têtes ne verront pas de même. Mais quand les oies crient au celui d'en avant, puis « lâche pas, continue, ça va. » Ça l'encourage. 7. Être ancien est une belle activité. C'est bon, ça, dans 1 Timothée 3.1. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, surveillant, il désire une belle activité. Savez-vous pourquoi c'est une belle activité? Parce que quand tu es appelé de Dieu, tu es là ce que tu dois être, puis Dieu t'a donné les capacités puis le don pour faire ce que tu fais, c'est une des plus belles activités que tu peux avoir dans le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ton idée magistrale d'avoir institué des hommes pour conduire ton peuple avec l'autorité de Dieu, Bible en main. Et nous voulons prier, Seigneur, que tu fasses de l'équipe d'anciens à l'Assemblée du Cap un seul homme, une seule âme, afin que cette équipe d'anciens puisse diriger ton peuple, d'être des modèles, d'être des hommes qui surveillent, des hommes qui aiment les âmes, des hommes qui aiment ta parole et des hommes qui t'aiment par-dessus tout. Des hommes qui discernent la gravité du péché. Des hommes qui sont jour et nuit dans la prière, dans l'enseignement de ta parole. Ô Seigneur, soutiens cette équipe d'anciens et que tu puisses faire de chaque ancien l'homme de Dieu que tu veux qu'il soit. Bénis-nous, Seigneur, comme assemblée du camp. Et que notre assemblée soit dirigée par des hommes de Dieu dignes de ton nom, Seigneur Dieu. À la gloire de ton nom aussi. Amen. Amen. Merci.